Mémodio, une mémoire sonore.
Les concepts métaphysiques, il y a d'abord la prédominance de l'épiphénomène par rapport au phénomène. Ce n'est pas la peine d'essayer de comprendre un phénomène global, il faut aller chercher le petit truc qui bizarre qui amène à un autre univers. L'autre principe, c'est l'équivalence des valeurs. Le vrai étant égal au faux, on peut parler de fausse théorie de la même façon que de vraie théorie, c'est exactement pareil et ça amène à une ouverture. Et une idée qu'il a repris d'Épicure, qui est l'idée du clinamen, c'est-à-dire si vous faites tomber deux atomes de façon parallèle, au bout d'un moment, automatiquement, il y aura une très très petite déviation qui va arriver et la pataphysique se situe dans cette déviation. Et donc, après Jarry, après-guerre, est né le collège de pataphysique et qui continue, notamment par le biais de ses cahiers trimestriels, à étudier un certain nombre de choses, à mettre en valeur un certain nombre d'événements et notamment des penseurs complètement à côté des normes et à côté des modes actuels. Et enfin, juste pour finir, je voudrais dire, parce que c'est important puisque Serge va parler de Christian Dankal, en fait, il y a deux pataphysiques. Il y a la pataphysique consciente, celle qui s'étudie dans le collège à la suite d'Alfred Jarry, je viens d'en parler, mais il y a une autre pataphysique qui est la pataphysique inconsciente, c'est-à-dire des gens qui font de la pataphysique sans même connaître le nom, sans même connaître les théories. Peut-être que la porte d'entrée la plus simple aujourd'hui pour comprendre ce qu'est la pataphysique inconsciente, ça serait peut-être de regarder notre vie politique actuelle. Et c'est vrai qu'un certain nombre de comportements actuels, de théories actuelles, d'engouements médiatiques ressortent complètement de la pataphysique inconsciente. Donc voilà. Alors Serge, donc on l'a dit, tu as fait don d'un certain nombre d'objets, d'un certain nombre d'affiches, et notamment une affiche originale de Boris Vian, l'affiche dans laquelle Boris Vian reprend le texte de Boris Vian sur le calcul de Dieu à l'aide d'axiomes vrais et faux, donc on est vraiment dans l'équivalence des valeurs là, dont je parlais. Et cette affiche, il faut noter qu'elle t'a été offerte par Dédé, grand personnage du collège, et la femme de Boris, Ursula Vian, qui te l'a donnée. Et tu as aussi également, je crois, une marionnette du Burois, qui est une marionnette qui t'a été donnée par Jean-Christophe Averti et qui est une marionnette d'un de ses ubus, puisqu'il a fait des mises en scène et des films à partir du Burois. Et donc, peut-être que pour introduire à la chose, la première question que j'aimerais te poser, c'est comment as-tu rencontré tes premiers pataphysiciens? Quels ont été tes premiers contacts avec cet univers?
Merci Gérard, merci commandeur de la Grande Gidouille. Pour commencer, je voudrais quand même placer cette rencontre, comme tu l'as à peine évoqué tout à l'heure, évoquer le fondement hilar de la pataphysique par l'interjection permanente poussée par le père Ubu en ce jour où nous avons un Ubu terrible menaçant la paix du monde avec Donald Trump. Je lui dédie le merdre d'Ubu. Et je vous invite, si vous le voulez, à dire merde en même temps que moi. 1, 2, 3, merde. Car à la face de celui qui veut sucer la glace de dollars du Groenland après le Coca-Cola du pétrole vénézuélien, nous n'avons que cette matière à jeter. Je voudrais dédier aussi cette rencontre au théâtre de l'acte. Et j'ai vu que dans la salle, il y avait Michel Mathieu et Marie-Angèle qui ont monté il y a quelques années un magnifique Uburois que je vous invite à revoir dans les archives et peut-être aussi à consulter la sculpture superbe qu'il y avait il y a quelques années encore au ring, peut-être est-elle là encore. Et aussi, bien sûr, à la mémoire de Boris Vian et à un poète que personne ne connaît, que tout le monde a oublié ici, Lanne Longue. Un poète de la place Esquirol qui fut assassiné lorsque j'avais 4 ans et dont l'assassinat contribua à ma vocation de poète. Ma grand-mère, entrant dans notre taudis de la rue Pérolière, disait, et je me souviens d'elle avec, dans son regard affolé, « On a assassiné le poète ». Et j'avais 4 ans, je ne savais pas, mais l'idée de l'assassinat du poète m'est restée dans la tête, surtout que le local de ce poète, qui s'appelait Lanne Longue, qui était en fait la première cave poésie de Toulouse, s'appelait la tournerie des drogueurs. Et dans la tournerie des drogueurs, les anciens qui sont ici dans cette salle s'en souviennent sûrement, la tournerie des drogueurs, il y avait des poètes énormes qui se présentaient, et notamment Boris Vian, qui faisait des concerts de saxo, de trompette. Alors, ça c'était pour situer le merdre de Jarry. Alors, comment je suis rentré, mes premiers contacts avec des pataphysiciens, des vrais pataphysiciens, parce qu'il y a les faux pataphysiciens aussi. C'est peut-être aussi avec Dominique Del Pierrou, qui était avec moi, avec qui tu faisais la cam en vert. Il était habillé tout en vert. Je vois arriver, j'étais pion à l'époque, et je vois arriver un lycéen habillé tout entièrement en vert, chaussettes vertes, pantalon vert, enfin. Et il disait, je suis le fondateur de la revue La Cam en vert, La Cam en vert. Alors, après Dominique Del Pierrou, j'ai rencontré, c'est Umberto Eco, qui avait sorti à cette époque Les Limites, son livre que je vous conseille de lire, Les Limites de l'interprétation. Et je lui avais écrit en lui disant, cher Umberto Eco, Umberto Eco que j'avais rencontré à Paris, au restaurant de la Chandelle Verte, un restaurant très triste pour les pataphysiciens, pour ceux qui sont allés à la Chandelle Verte, c'était terrifiant. Et je lui avais écrit parce que, en lui disant que je connaissais des limites de l'interprétation et des illimites de l'interprétation. Et donc c'est cet échange avec Umberto Eco et d'autres pataphysiciens qui m'ont permis d'ouvrir l'espace de la pataphysique. Il y a eu aussi, à la Chandelle Verte, j'ai rencontré Dario Fo, que j'avais fait venir pendant 2 jours à Toulouse, à l'université. Et aussi donc, entre Umberto Eco, Dario Fo, Dédé et Ursula, à laquelle je remis un bâton poème au Moulin Rouge avec Chiara Moulas, qui était présente, qui elle-même est commandeur requise du Collège de Pataphysique et de la section sardonique du Collège de Pataphysique de Sardaigne. Alors, et avec aussi un hommage à Thierry Foulque, qui a maintenu tout le Collège pendant des années, quelqu'un de très cultivé, un ami de Mallory. Aujourd'hui, lorsque je pense à ce qu'on va faire au Gros Élan, je pense à Mallory. Et vous savez, lisez Les Derniers Rois de Tulé. Bon, c'est pas de la pataphysique, mais ça fait un peu peur. Et Claude Debon, qui était à mon jury de thèse à l'université lorsque j'ai fait la langue arrachée, et qui était grande commandatrice, je crois, pornosophe du Collège. Voilà. Claude Debon et Robert Florkin. Il y a aussi Claude Gudin. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de Claude Gudin. Je l'ai rencontré à Uzest et avec Bernard Lubat. Et à cette époque-là, je disais des poèmes en écrasant des tomates, encore comme aujourd'hui peut-être, et en frappant des pieds par terre. Et je vois un type formidable qui me dit « Je veux te faire un cadeau » et il m'offre ma première mandragore. Et vous savez, quand on vous offre un objet comme ça, une mandragore extraordinaire, tordue, c'était. Et il me dit comme ça, ça pousse au pied des pendus. Il faut imaginer que tu es entouré de pendus. Et cette mandragore, cette racine, se nourrit avec le sperme des pendus. Et donc j'ai fait tout un récital de poésie en évoquant la mandragore de Claude Gudin, qui était aussi satrape du Collège de Pataphysique. Et enfin. C'est aussi la rencontre avec Fernando Arrabal, qui, dans sa maison et aussi dans la maison de Thierry Foulque, on a réussi même si l'endroit était petit, à faire rentrer une centaine de personnes et à faire le grand hommage à Arrabal comme satrape. Moi-même qui venais d'être nommé satrape du Collège après Umberto Eco. Et donc, je ne vais pas vous raconter l'initiation avec Fernando Arrabal, mais c'était quelque chose qui était formidable. Et on n'a pas trop le temps, mais pour ceux qui s'intéressent à ces choses-là, je vous en parlerai plus tard. Et enfin, un type extraordinaire, qui était aussi un ami de Gérard Trouillet, Jean-Pierre Le Goff. Qui travaillait autour des perles et des lions. Et toute son œuvre, ça consistait à enfiler, à perdre et à distribuer des perles à l'intérieur de caches secrètes ou de statues ou de lieux publics. Jean-Pierre Le Goff, que j'ai fait venir, bien sûr, à la Cave Poésie, où la Cave Poésie avait organisé un itinéraire dans les lieux de Toulouse à la rencontre des lions, des statues de lions qu'on pouvait découvrir sur les maisons de Toulouse. Alors, pourquoi la pataphysique ? Moi qui suis souvent un poète en colère, un poète triste, etc. Parce que je pense que la poésie doit se moquer du sacré qui l'irrigue. La poésie appartient au sacré, au sacrifice. Et à un moment donné, il faut se détacher et savoir se moquer de cette poésie-là. Il faut se moquer du sacré et la poésie doit participer à son propre renversement. Et c'est ainsi que, d'une manière naturelle, je suis rentré au collège de pataphysique, bien sûr après la lecture de Jarry, mais aussi accompagné par tous les fantômes qui pour moi étaient vivants et qui me tenaient les pieds depuis leur tombe pour m'aider à marcher.
Merci, mais il y a un nom que je n'ai pas entendu et qui pour moi est un souvenir d'enfance. Quand j'étais gamin, quand on allait chez mes grands-parents dans la voiture paternelle, là, on passait du côté de Jolimont et j'étais fasciné par, c'était quelques temps après 68, je suis né en 57, j'avais 11 ans, 12 ans, et sur les murs, il y avait des grandes inscriptions « Votez d'Ancale ». Votez d'Ancale, et c'est resté pendant des années, et moi je ne connaissais pas ce type, et en fait je crois que tu as des choses à nous dire sur la pataphysique inconsciente de d'Ancale.
D'Ancale, il faudrait lui élever une statue. C'est à 15 ans aussi, mais bien avant toi, parce que je suis plus vieux que toi, que je rencontrais mon premier pataphysicien en chair et en os, en la personne de Christian d'Ancale. L'inoublié Christian d'Ancale, héros, situationniste et anarcho-monarchiste de haute réputation. Ce roi des haltères exhibait son corps dans les espaces et les moments les plus invraisemblables de la capitale garonnaise. En 1960, on l'avait sacré et sanctifié plus bel Apollon d'Europe. Cet empereur, renverseur de dictons, concepteur de proverbes musculaires, inventeur de poèmes physiques, clamait partout qu'il était l'exception, qu'il ne faisait pas la règle. Il fut candidat à toutes les élections politiques, bien avant Coluche, avant d'établir le rire comme théorie de libération. Souvent déguisé en Père Noël, accompagné de ses amis de son club d'haltérophilie, il se rendait en délégation aux commémorations des anciens combattants de toutes les guerres. Certains jours, inspiré par le vent d'OTAN, juché sur une trottinette, portant la moitié du visage rasé et une barbe longue de l'autre, ce Janus fabuleux traversait la ville sous les trottoirs en chantant une Marseillaise érotique, voire pornographique. Rebelle contre tous les ordres, il était un Diogène absolu et persévérant, insoumis, celui qui fut conduit à 6 ans à l'école par les gendarmes. Fils d'un père guadeloupéen, traité régulièrement de petit nègre, il érigea naturellement sa couleur en mouvement de libération. Pendant la guerre, encore tout enfant, il fréquentait les maquisards italiens et autres anarchistes espagnols. Musicien précoce, à 12 ans, il devint un roi de la batterie. En faisant exploser sa caisse claire et ses cymbales, il se produisit dans tous les bals de la région sous le pseudonyme de Jo le Noir. En ce temps-là, il avait la particularité formidable d'accompagner les élots amoureux avec le tambour de la grosse caisse qu'il frappait à l'aide d'un godemiché géant. Plus tard, combattant en Indochine, il refusa de tuer et de ce fait fut dégradé, mais il conserva jalousement, enfermé au-dessus du frigo, sa médaille de la croix de guerre des théâtres d'opération extérieurs avec étoile de bronze. Membre du commando légendaire qui traversa les lignes ennemies, il rejoint Natsan après 4 jours de marche forcée. Présent à toutes les commémorations et toujours déguisé en Père Noël, il répondit à un vil colonel qui lui demandait pour qui il se prenait. Il répondit « Il vaut mieux être habillé en Père Noël qu'en CRS ». Collectionneur de petits jouets d'automates, de voitures d'Inky Toy, de poupées parlantes, de jeux de loi animés, ce modèle incomparable de l'école des beaux-arts, plus bel Apollon d'Arcachon, ami du rocker, vous en souvenez, Dick Rivers, hantait les nuits de Toulouse en peignant le nom de son empire sur tous les murs. Club Dancal. Personne n'osait rien lui dire, car vu la taille de ses muscles et ceux de son personnel, le téméraire était celui qui pouvait s'y risquer. En 86, année où je devins son admirateur incontestable, il ouvrit dans une salle de sport, dans sa salle de sport, un resto du cœur. Et cet empereur Diogène incomparable et généreux voulut aussi se soumettre aux européennes avant qu'elles soient invalidées au fameux traité de Lisbonne. Sa proclamation, appelée liste du Père Noël, le parti des enfants, proposait la retraite dès la naissance avec 100 euros par bébé jusqu'à ses 18 ans et également l'entrée payante aux enterrements. Il souhaitait de surcroît remplacer les prisons par des camps de vacances. Selon l'incontournable dépêche du midi, bréviaire quotidien des bistrots, Christian Dancal a élevé la candidature politique au rang d'art. Depuis 1978, il s'est présenté 60 fois au Conseil général, dont une fois sur 25 cantons en même temps, 3 fois à la mairie de Toulouse, 10 fois aux législatives. « Je suis le doyen des candidats non élus », déclara-t-il, et a même dépassé les 4% sur le canton du centre-ville, sa meilleure performance. Il a été l'empereur des Toulousains, le Napoléon du rire et de la philosophie situationniste appliquée. Merde, merde!
Et alors, pour rentrer dans le collège, je crois que le Boudin a joué un rôle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça?
Les poètes, vous savez, ils travaillent sur les mots, ils travaillent sur le langage. Et il y a quelque chose qui m'a surpris, mais beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire, je suppose. Comme beaucoup de Toulousains, j'aime le Boudin de Toulouse. Et le Boudin, c'est quelque chose de sacré pour moi. Et en Occitan, parfois, selon les régions, on peut confondre avec une bonne ou une mauvaise oreille, selon les cas, on peut confondre le bon Dieu et le Boudin. Hein, Bundi ou Boudin. Et notamment dans certaines régions de Catalogne, d'où vient ma famille. Et il faut préciser de quel boudin on parle, si c'est du boudin de Dieu ou du boudin du cochon. Ça fait tout petit, j'ai eu une confusion entre le boudin et le bon Dieu. Comment prier le boudin tout en étant copain avec le bon Dieu et comment manger le bon Dieu? Et alors je ne comprenais pas d'ailleurs qu'à l'église, parce que j'allais à la messe, je ne comprenais pas qu'on ne nous donne pas à manger du boudin à la place de l'hostie. Mais enfin bon. Ça fait boudin, bon Dieu, mais en même temps, plus tard, comme quoi, et c'est là que je rentre en pataphysique, il y a une bombe qui tombe sur moi, et je vois, je comprends que tripe, au pluriel, c'est l'anagramme d'esprit. Donc, devant moi, c'était la nuit, je me souviens, je vois le boudin qui était dans mon frigidaire et que j'allais finir le lendemain. Et en même temps, je vois apparaître l'anagramme, comme dans une télépathie cosmique, universelle, je vois apparaître l'anagramme tripe au pluriel et esprit. Donc je me suis dit, c'est quelque chose de fondamental, et qui se passe, il y a quelque chose de vrai, et là, tripe, esprit, boudin, bon Dieu, je découvre... Parce que j'aime lire les dictionnaires, notamment à cette époque-là où je faisais un peu du grec et du latin, et je cherche la racine d'enthousiasme. Enthousiasme, c'est réveiller le Dieu qui est en soi, c'est faire bouger le Dieu qui est en soi. Mais en même temps, bon, ça ne correspondait pas tellement à ce que je cherchais, mais j'ai eu la chance, parce que j'aime bien lire tous les alinéas, les consignes les plus étranges, j'ai vu qu'une déracine d'enthousiasme, c'était aussi remuer la viscère qui allait au cœur. C'est une seconde version de la racine d'enthousiasme. Ça fait que j'avais devant moi Boudin, bon Dieu, je ne savais plus où j'étais, esprit, tripe, et tout d'un coup, devant moi, l'enthousiasme, et j'ai la tripe qui va au cœur, à ce cœur métaphysique, mais qui va devenir pataphysique. Très vite, je rencontre la pataphysique. Et là, Claude Debon, à qui j'ai raconté cette histoire, elle m'a dit, voilà, tu es déjà commandeur requis du collège de pataphysique. Et ce jour-là, à la CAF Poésie, à une époque où on n'avait pas de réglementation tellement précise et tatillonne sur le fait de faire du feu ou ne pas en faire, j'avais installé un réchaud et sur scène, j'ai fait griller du boudin et que j'ai distribué à toute la salle. Peut-être que certains ont mangé de ce boudin d'ailleurs. Et c'est là que j'ai reçu ma première distinction du collège de pataphysique. Voilà.
Il y a un aspect aussi important, c'est l'aspect du jeu, J-E-U, et je crois que tu as travaillé là-dessus, d'abord avec Arabal sur les échecs, et puis la prochaine rencontre, tu vas nous présenter ton jeu de tarot, et je voulais savoir quel avait été l'apport de la pataphysique dans cette partie de ton travail.
Alors, c'est vrai, dans Cal, j'en ai fait dans Cal l'empereur du jeu de tarot toulousain que je viens de terminer. D'ailleurs, dans la salle, je ne vais pas lui dire son nom, je ne veux pas le gêner, il y a le pape. Hein, il y a le pape toulousain du tarot et de l'Occitanie qui est ici parmi vous. Et c'est quelqu'un de très, très, très important. Mais dans ce tarot-là, même si nous rions, parfois nous ouvrons des espaces de connaissances qui sont très, 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 très particuliers. Donc, j'ai créé une compagnie secrète qui s'appelle la compagnie du tarot de terre cabale et non de terre cavale. J'ai transformé le cimetière en lieu cabalistique. Et dans ce cimetière de terre cabale, il y a une compagnie secrète qui se réunit une fois par an, aux alentours, dans une date qui restait secrète aussi, et où on tire les cartes secrètes du tarot de Toulouse, dont vous allez avoir la primeur, ici, rue des Périgord, dans une vitrine qui est consacrée sur des roues de bicyclette que j'ai trouvées dans des poubelles, et qui vont être peintes en or, avec à chaque rayon les cartes du tarot. Alors, j'ai pris un hommage à Christian Dancal. J'ai voulu, bien sûr, trouver le lieu où il avait pu sévir, mais en même temps, j'ai pensé que c'était vraiment l'empereur de Toulouse. Et je ne sais pas si vous connaissez la petite rue qui descend vers le canal, vers la Garonne, pardon, la petite rue du quai du pont de Tunis. Et là, dans cette petite rue, il y a une ancienne brasserie et vous avez l'empereur qui vous regarde. Et l'empereur du tarot de Toulouse est donc en même temps Dancal et en même temps la sculpture de la bière du brasseur qui surveille la rue. Alors, comment ma première grande opération pataphysique, c'était au jeu d'échecs. J'ai appris à jouer aux échecs tout enfant avec mon père qui rentrait du camp de concentration et du camp de concentration français, là où les Français l'avaient enfermé à Argelès et à Rivesaltes. Et il me disait, les Catalans, c'était des grands joueurs d'échecs, un peu comme les Russes ou les Ukrainiens. Et ils jouaient aux échecs. Et il avait découpé dans des boîtes de conserve toutes les figurines du jeu et il traçait l'échiquier sur le sable. Beaucoup sont morts en jouant aux échecs. Et tout petit, dans la cité de Lers, là où j'habitais, qui était une cité d'urgence à cette époque-là, où on n'avait pas de chauffage ni rien, je me souviens dans la cheminée, on se chauffait encore au charbon et au feu de bois, il m'enseignait à déplacer les pièces du jeu et on a travaillé comme ça au jeu d'échecs pendant toute une bonne partie de l'enfance. Alors, j'ai toujours perdu aux échecs. Je ne suis pas le roi des échecs. Bien au contraire, mais j'ai écrit beaucoup de textes autour des échecs, car j'ai voulu imaginer la partie la plus folle du jeu. C'est-à-dire, presque sans déplacer les pièces, gagner, accéder à la victoire. Et un jour, dans un délire complètement pataphysicien, aussi, je dois dire que j'ai organisé une partie du jeu d'échecs à l'aveugle avec Fernando Arrabal, qui est un grand joueur d'échecs, lui, Fernando Arrabal. Et lorsque nous avons monté le collège de pataphysique à Cagliari avec Pablo Volta, peut-être que certains le connaissent, c'était un grand photographe, j'ai imaginé une partie du jeu d'échecs. Arrabal n'avait pas pu venir fonder le collège de pataphysique, et nous avons fait une partie à l'aveugle, tous les deux, qui ne s'est pas terminée. Mais enfin, nous avons joué le jeu, c'est le cas de le dire, et où il y avait des enfants qui sortaient de case en case. C'était un jeu d'échecs géant. Mais ma rencontre avec la pataphysique, tu fais bien de me poser la question, et à avoir avec le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, c'est aussi un jeu sacré pour nous. Et comment dénaturer ce jeu? Alors j'ai imaginé un jour de remplacer toutes les pièces du jeu d'échecs par des petits verres d'alcool. Il y avait donc toute une... Il y avait les noirs et les blancs, bien sûr. Ça, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai choisi des verres blancs, des petits verres blancs pour le camp des blancs, et des verres teintés pour les camps des noirs. Mais la particularité de ce jeu était la suivante. C'est-à-dire que dans chaque pièce, j'avais mis un alcool différent. Le roi était un rhum, par exemple. La reine était une vodka, etc. etc. Je vous lirai tout à l'heure un extrait. Et le jeu, les pions étaient du Corbière, les pions blancs. Les autres, c'était du Côte-du-Rhône. Il fallait avoir. Et alors, quand vous voyez le jeu d'échecs posé sur l'échiquier, on ne pouvait pas imaginer que c'était, si vous ne le saviez pas, que c'était des pièces du jeu qui étaient sur l'échiquier. Il y avait le roi, la reine, les chevaux, les fous. Mais la difficulté de ce jeu, c'était la suivante, c'était qu'il se jouait, dans un hommage bien sûr à Rabelais, avec le nez. C'est-à-dire qu'il fallait respirer les alcools qui étaient sur le jeu d'échecs, ce qui était très difficile. Surtout qu'à chaque pièce prise, on se l'envoyait. On la buvait, la pièce prise. Et alors, je me souviens, on était là, et on a fait des parties redoutables. Et il y avait bien sûr quelqu'un qui marquait les pièces prises pour le public. Et j'ai fait une partie comme ça, je vois qu'il y a Modesta qui est ici, à la cave Poésie, et on a travaillé en ce sens. Je vais vous lire, si vous le désirez, un extrait de cette partie. Un extrait, parce que elle est très longue. Le duel se déroulait une fois par an dans un local souterrain du collège de pataphysique, et certains lundis dans une cave de Toulouse, celle de la poésie. Après avoir dessiné le gidouille à la craie contre le mur, toute une assemblée en transe participait au sacrifice du burois. La méthode restait simple. Les pièces du jeu étaient remplacées par des gobelets de verre, légèrement teintés de rouge pour les noirs et transparents pour les blancs. L'échiquier, de la sorte, était séparé de part et d'autre par deux rangées de verre formant les composants du nouveau jeu. Pour n'importe qui, il devenait de cette façon impossible d'identifier les diverses pièces, car chaque gobelet demeurait semblable aux autres, et ceci en dépit de son contenu. La particularité de ce jeu audacieux était de s'affronter avec le nez. En effet, chaque verre était chargé d'un alcool caractéristique, pour qu'on ne se trompe pas, dans la manipulation des pièces. Ainsi, en cette soirée de la Toussaint de 2001, au tirage au sort, m'échurent les blancs, et donc, à Fernando, évidemment, les noirs. Les petits verres en anthracite, qui remplaçaient les pions, étaient remplis de muscat. Il laissait rêver à des vignes et à des vendanges inassouvis au bord de la mer. Le roi noir, un cognac vieilli, n'avait jamais quitté son fût de chêne. La reine noire, déchirée de dentelle, s'épanouissait dans un rhum de Cuba. Quant aux deux fous noirs, ils titubaient l'un dans une bière brune et le second dans un baume de Riga. Les deux étalons piaffaient le premier sous un amaretto diamanté et le deuxième sous une absinthe du diable noir. Les tours de verre débordaient pour l'une dans un alcool de cerise noire et pour l'autre dans une liqueur de cassis. Les pions blancs plus pétillants retrouvaient les bulles de champagne de notre ami Bernard Heidzik. Le roi blanc s'appuyait sur un mezcal d'Oaxaca alors que la reine blanche courtisait une tequila d'agua caliente. Les deux fous neigeux barbotaient littéralement, l'un dans le ricard et l'autre dans un alcool de poire. Le premier cheval blanc frappait de ses sabots une Volka Polyakov de 20 ans d'âge, pendant que le second dansait dans un gin allemand répondant au nom de Monkey. Quant aux deux tours blanches, elles baignaient leurs pieds, l'une dans une gentiane de ma grand-mère et l'autre dans une eau de vie de la Marne. Sur un échiquier géant, aimanté, une amie a noté les vraies pièces dans leur normalité qu'elle faisait suivre de ses commentaires. Bon, très bon coup, mauvais coup, très mauvais coup, coup inintéressant, coup douteux. Nous avions placé nos sessions, évidemment, sous le patronage d'Alco Fribas Nazier, anagramme de François Rabelais, annonçant en toutes lettres « abstracteur de quintessence ». Oui, Alco Fribas était pour nous celui qui fabriquait de l'alcool, et Nazier, signifiant « nez au museau », évoquait les tuyaux des alambics qui nous traversaient. Mais le commun, abandonnant nos références littéraires, appelait nos séances de guerre courtoise les parties du naze. Et c'est vrai que pour jouer, nous nécessitions des mufles, des naseaux, des pifs, des trompes ou des tarins semblables à celui de Cyrano de Bergerac. Le groin en avant, une serviette nouée autour du cou. La cérémonie grotesque du jeu était pour tous désopilante, y compris pour les joueurs. Les coups étaient souvent accompagnés de notre coup, car le joueur à chaque pièce gagnée se devait de boire le contenu du verre ennemi. Nos yeux de clown révulsés et nos glouglous fracassants faisaient se moucher de rire les spectateurs devant les commentaires de notre arbitre veillant au bon déroulement de la partie. Il existe 318 979 000 manières différentes de jouer les quatre premiers coups d'une partie d'échecs, donc évidemment le même nombre de possibilités de renverser les verres. Il fallait ainsi ménager en même temps l'intelligence stratégique et notre dextérité afin de ne pas répandre, le verre manipulé. On s'en doute, les prises en passant étaient saluées par les vivas de la foule qui, elle aussi, se saoulant en même temps que nous, applaudissaient hystériquement nos prises et nos déglutitions. On était loin de Lewis Carroll qui, dans son livre « À travers le miroir », montrait l'héroïne tentant d'apprendre le maniement des pièces à son petit chat. Mais notre partie des odeurs, lorsqu'on la gagnait, nous faisait découvrir de part et d'autre de notre reflet alcoolique brisé un pays découpé à la manière d'un échiquier, etc. Merci.
Alors, il y a une chose aussi, c'est que la question est un peu compliquée, parce qu'en pataphysique, les notions de passé, de présent et de futur sont bien évidemment totalement inconnues, voire aléatoires. Alors que je ne vais pas te poser le futur, mais prochainement, on va dire, est-ce que tu as des actions qui sont prévues ? Est-ce que tu as des performances ? Est-ce que tu as des actes pataphysiques que tu comptes poser ? Et notamment avec ma sœur en gidouille, Chiara. J'ai dit ma sœur en gidouille puisque nous avons reçu avec Chiara en même temps des mains de Thierry Fougue notre diplôme de commandeur de l'ordre de la Grande Gidouille. Donc c'est quand même un lien important. Est-ce que vous avez prévu de faire des choses, lesquelles ?
Oui, nous avons. C'est un travail que j'ai effectué en prévision de la sortie du livre. Et j'attends d'ailleurs le jour du vernissage de la rue du Périgord, au mois de septembre pour sortir tout le jeu de Toulouse. Et j'ai écrit des situations semblables, enfin, qui ont un écho un peu avec la psychomagie de Jodorowsky, avec lequel d'ailleurs, avec qui, pardon, j'ai publié un petit livre sur le tarot. Moi, j'avais fait la carte de la force, lui, l'interview. Et j'ai demandé à Catherine Aïra de filmer les actions que j'avais prévues. Alors, normalement, à partir de la base stratégique du Périgord, de cette bibliothèque qui nous a ouvert le monde lorsque nous étions adolescents, j'ai imaginé 22 situations sur Toulouse pour le tarot de Toulouse. Alors, le bateleur. Alors, le soleil, c'est la carte du soleil. C'est à la fois renversant, c'est à la fois situationniste, c'est à la fois magique, mais bon, c'est à la fois impossible et possible à réaliser. Premièrement, alors il faut imaginer que la carte a été tirée au cimetière de Terre Cabale. Hein, ne te confondez pas, pas de Terre Cabale. Hein, Terre Cabale, voilà. Recueillir de l'eau de la Garonne dans un jouet d'enfant imitant un fusil, mais qui en vérité sert à arroser les passants. Deuxièmement, remonter plus tard, pieds nus, la rue du Thor sur le chemin de Saturnin. Troisièmement, tirer avec cette arme factice en direction de l'église, depuis l'ancienne boucherie où l'on vendait les taureaux sacrifiés de la corrida. Quatrièmement, écrire avec de l'eau le mot soleil avec un long pinceau chinois sur le dernier étage du parking des Carmes et attendre que le mot sèche en disparaissant. Cinquièmement, effectuer la même chose devant la gare Matabiau. Sixièmement, se rendre en face du lycée des Arènes et disposer à la sortie du métro un petit taureau de plastique noir cerné de poupons figurant les banderilleros, le picador et le matador. Septièmement, entourer le tout d'un vaste cercle et réciter à haute voix l'alphabet hébreu. Huitièmement, aller à l'église des Jacobins et accomplir le tour du palmier en disant la succession des chiffres de 3, 14, 6 pendant 3 minutes, 14 secondes. Neuvièmement, l'action de l'arcane s'effectuera au son des palmas de l'école de la Morita, danseuse de flamenco. Dixièmement, lire durant une heure sur le parvis la liste des décimales de pi. Onze, ceci effectué, aller en procession au jardin royal et donner à manger à une pie un morceau de pain sur lequel est écrit le nombre pi et la regarder s'envoler avec la formule. Douzièmement, ensuite, devant le soleil couchant en haut du parking des Carmes, faire pi ou pisser en se concentrant sur la question posée lors du tirage de la carte. Treizièmement, terminer le matin à l'angle de la rue du Rempart Saint-Étienne et de la rue de Metz en lâchant deux ballons gonflables jusqu'aux deux gémeaux décollant sur le toit de l'édifice. Ceci pour le soleil. L'impératrice. C'est le parvis de l'Allograin qui accueille l'hommage à la carte qui est choisie. Se ranger donc sous la statue de Dame Toulouse, œuvre de Jean Rancy, sur la place du Puy, et jouer avec un hula hoop ou un cerceau dans les environs de l'édifice. Disposer dans la fontaine un poisson rouge vivant dans un sac rempli d'eau. Quatrièmement, aller au jardin des plantes, puis lancer des anneaux autour du cou des canards en plastique devant le manège. Cinquièmement, réciter le poème de l'évangile du serpent ou le lire dans l'église de la Dorade. Sixièmement, se noircir avec une bougie le visage face à une dorade achetée au marché Victor Hugo. Septièmement, pendant toute la durée de l'opération, garder un autre poisson rouge vivant à l'intérieur de sa bouche, puis le recracher dans le bassin. C'est très difficile à faire, mais ça a déjà été fait. Ça a été fait, je vous raconterai. Oui. Réaliser un diadème pour l'impératrice constitué de capsules de bière et de bougies allumées. Neuvièmement, puis se rendre en procession à dos d'homme sur un trône en direction du musée Georges Labille. Et dixièmement, au cours de tout le parcours, l'impératrice devra manger et recracher les pages du livre des morts égyptiens devant une statue d'Isis allaitant à Porcrate. J'avais une amie, une Argentine, qui était formidable, parce que la performance, la vraie, c'est un vrai travail, ce n'est pas une poésie mise en scène sur une scène, hein. C'est autre chose. Quand elle est rentrée nue, sur un cheval blanc, magnifique, elle est rentrée, et elle a pris un... Il y avait un aquarium qui était devant elle, un gros aquarium, et il y avait un poisson rouge qui nageait dans l'aquarium. C'est très difficile à réaliser. Donc je lui avais donné des conseils. Son jeu consistait à enlever le poisson rouge de l'aquarium, le jeter par terre, jusqu'à ce qu'il s'étouffe, et puis elle remplaçant le poisson rouge à l'intérieur de l'aquarium, jusqu'à ce qu'elle s'étouffe elle-même. Et donc quand elle ne pouvait plus respirer... Elle respirait. Elle reprenait le poisson rouge, elle le remettait dans l'aquarium. C'était extraordinaire. Les gens criaient, bien sûr, parce qu'ils n'aimaient pas qu'on travaille avec les animaux vivants. Mais enfin, c'était formidable ce qu'elle faisait. Et en même temps, derrière elle, il y avait un trampoline. Et puis le poisson rouge, elle l'a pris et il nous a semblé à tous qu'elle l'avait avalé. Vivant. Avaler un poisson rouge vivant, c'est quelque chose de difficile à réaliser. Il ne faut pas vomir. Mais son poisson rouge était vivant. Elle l'avait avalé. Et derrière elle, il y avait un trampoline. Et là, elle a pris un poulet. Il n'y a pas trop d'enfants, disons. Elle a pris un poulet. Et elle a fait... Elle s'est mis le poulet, un poulet plumé. Hein. Elle se l'est mis entre les jambes. Et ce poulet a figuré le vagin. Hein. Et... Elle s'est mise tout d'un coup à sauter sur le trampoline et vous aviez son sexe. C'était une performance très politique, féministe, très très belle. Hein. Et son sexe se détachait de son ventre et c'était le poulet. Tout le monde comprenait ce qui se passait, évidemment. Et jusqu'à la fin, où elle a pris le poulet et elle se l'est remise entre les jambes. Et là, elle s'est levée. Elle monte sur le cheval, qui était toujours derrière elle, et tenez-vous bien, elle crache le poisson rouge, qu'elle avait conservé vivant pendant toute la performance, à l'intérieur de la bouche. Ça, c'est du travail artistique, c'est pas de l'art. C'est pour ça que lorsqu'on me parle de performance en général, des fois je ris un peu, parce qu'en fonction de ce que nous avons vu dans le passé, c'était des choses incroyables, vraiment incroyables, qui se réalisaient. La carte de l'amoureux, c'est le 6, l'amoureux. Je vous en parlerai en détail la prochaine fois pour le tarot de Toulouse. Premièrement, dans la cour de l'hôtel d'Acésate, tirer à l'arc contre un miroir jusqu'à le fendre, puis écrire sur le sol le nom d'Orphée. Prendre une barque sur la Garonne avec deux mannequins, un à l'effigie de Cavalcanti, et l'autre de Mandetta, son amour, pour ceux qui connaissent la littérature. Troisièmement, se rendre devant la statue de Clément César pour y remettre l'arcane de l'amoureux au nom des fidèles d'amour. Quatrièmement, dans un seau d'eau de plastique rouge, faire flotter deux boules de ping-pong et les verser dans la vasque d'une fontaine. Cinquièmement, sur la première écrire Vita et sur l'autre Nova. Puis aller à Pénautier, déguisé en loup, alors ça c'est pour ceux qui connaissent les troubadours, déguisé en loup, en hurlant que nous sommes amoureux d'une louve. Alors, ceux qui ne connaissent pas, cherchez sur Internet et vous verrez qui c'est. Sixièmement, dans un second temps, se rendre aux Augustins devant la statue de Cupidon réalisée par Laurent Honoré Marquest et lui restituer son arc jusqu'alors invisible. Septièmement, enfin, à la prairie des filtres, tirée contre une carte postale jusqu'à ce qu'elle saigne. Huitièmement, puis au retour, réciter un poème devant la peinture de Lucas Cranach à la Fondation Bembert de Toulouse. Et neuvièmement, disposer à ses pieds des photos d'amoureux prises au hasard dans la rue. La mort. Depuis les reliques de saint Thomas d'Aquin. Conseil de la compagnie du tarot de Terre Cabale, de Toulouse au tireur de la carte de l'amour. Premièrement, réalisez une performance devant le coffret contenant la tête bouillie dans du vin rouge de saint Thomas d'Aquin, dans l'enceinte du couvent des Jacobins. Il a été bouilli dans le vin rouge, sa tête, il faut le savoir. Hein. Celui que nous appelions durant notre jeunesse saint Thomas, ou le Taquin, est un philosophe célébré par l'Église. Notre action iconoclaste consiste à lui porter une bouteille de vin cuit que l'on dissimule dans une des poches profondes de notre manteau. Et ceci, comme pour les autres arcanes, en pensant au plus haut point à la question que nous avons posée en tirant la carte. Se rendre au monument aux morts. Le lecteur de la carte devra ajouter discrètement sur le bas-relief, parmi les têtes de poilus, plusieurs visages anonymes découpés dans des journaux. Il commettra cet acte clandestin le 11 novembre, avant les cérémonies officielles. Puis, pour la Toussaint, en entrant dans une trappe, glisser une série de poèmes entre les cercueils du cimetière secret de Salonique, devant le mur des squelettes du muséum d'histoire naturelle, devant la cavalière et le cheval, ou l'aigle royal et le lapin, réciter le poème « La mort des amants » de Charles Baudelaire, ainsi qu'un poème personnel de sa composition. Enfin, porter une rose fanée à la basilique de la Dorade, lire un texte tiré au hasard dans un livre devant la chapelle de la confrérie des âmes du purgatoire où règne une tête de mort et deux tableaux représentant la mort. Enfin, je terminerai là-dessus, parce qu'il y en a à lire. Il y a l'action pataphysique pour la maison Dieu, qui est une carte fondamentale du tarot, qui est aussi une tour abolie, c'est l'arcane majeur 16. Et là, j'ai choisi, vous savez, cette tour qui est formidable, magnifique, entre la rue des Lois et la rue Pargaminière, dans la Banque de France. Vous le voyez, vous la voyez cette tour. Hein. Ça a été démoli il n'y a pas très longtemps, enfin il y a un siècle, un siècle et demi. Alors pour le tireur de la carte, incarné par le performeur encarté, il s'agit tout en contemplant une tortue et une fourmi de méditer sur leur existence. Alors je ne vais pas chaque fois vous expliquer le pourquoi, mais vous savez que dans cette tour, le secret de cette tour, c'est la fourmi et la tortue. Alors personne ne le sait parce que personne ne va voir exactement ce qui se passe, sauf ici Alain Sieur Garcia, qui est un spécialiste des secrets de la ville. Mais le secret de la tour abolie, c'est entre la tortue et la fourmi. La personne lisant devra se rendre au clocher des Cordeliers avec deux animaux, en faisant attention de ne pas perdre la fourmi vivante rangée dans une enveloppe. Troisièmement, invitez les passants à observer l'insecte avec une loupe grossissante. La disposez ensuite sur le dos de la tortue, symbolisant le monde. Quatrièmement, regardez marcher la tortue en traçant avec un marqueur les aléas de son parcours, puis déposez une marguerite sur l'emplacement de la ruine des Cordeliers. Cinquièmement, en prononçant à haute voix la formule ci-dessous, il écrira sur le sol avec un pinceau géant trempé dans un seau d'eau, jusqu'à ce que le vent l'efface peu à peu. C'est la formule qu'il y a sur cette tour. Je durerai encore, même si une fourmi avait bu toute l'eau de la mer et qu'une tortue avait le pouvoir de parcourir toute la terre. Rédigé aussi à la craie, sur la carapace de la tortue, le même texte. La mise en scène comportera le lâcher d'une fourmi rouge, géante de baudruche, gonflée à l'hydrogène, reliée par un fil à la tortue. Et ensuite, une procession se rendra vers la maison Dieu, hôtel Dieu, au bas du pont Neuf de Toulouse. Arrivé à son terme, l'artiste couchera dans la coquille Saint-Jacques une poupée de pain. Enfin, émettre la note mi devant le four du boulanger du quartier pour réaliser le mot fourmi. Maison se déclinant en mi-naos avec l'anagramme, cet endroit est la partie d'un édifice culturel recevant ou enfermant l'effigie d'une divinité. C'est ainsi que devant cet hôtel égyptien, représenté par le hiéroglyphe O18 de la liste Garner, on devra chanter la troisième voyelle sacrée. Enfin, se rendre au dernier moment sur une autre tour, celle de l'Oustal d'Occitanie, et jeter la poupée dans la cour avec des pétales de fleurs rouges et blanches, reproduisant la carte cachée du tarot de Marseille. Merci.
Eh bien, écoutez, il ne nous reste plus qu'à remercier Serge pour toutes ces interventions, ces éclairages, ces textes magnifiques qu'il nous a dit. Si la pataphysique vous intéresse, abonnez-vous à la revue du collège. Je ne sais pas d'ailleurs si la bibliothèque municipale reçoit cette revue, il faudra poser la question. Voilà, lisez Les aventures de Faustrol, c'est en poche. Et puis surtout, lisez et écoutez Serge Pey.
Mémodio, une mémoire sonore.